Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, 2 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, on revient sur ce qui s'est passé dans la rue au cours de quelques samedis, quelques actes entre les manifestants et les policiers. Au cours du fameux acte 3, le 1er décembre 2018, jour dit de la prise de l'Arc de Triomphe, avec un CRS. Pendant l'acte 22, le 13 avril 2019, avec 2 gilets jaunes. Et enfin, lors de l'acte 20, avec une victime de violences policières. Il faudra, en l'écoutant, garder à l'esprit que cette émission, jamais diffusée, a pourtant été enregistrée avant le livre et le film de David Dufresne, avant le projet de loi relative à la sécurité globale, le mouvement de protestation qu'elle a provoqué, avant surtout la diffusion de cette vidéo montrant le passage à tabac hyper violent de Michel Zecler par des policiers et l'indignation mondiale et légitime qu'elle a suscitée. Sur les gilets jaunes et la forme qu'ont prise les manifestations récemment, Fabien Jobard, sociologue, défend une idée que je trouve intéressante. À savoir qu'il y aurait depuis quelques années, voire décennies, en France, une certaine déchéance de la manifestation, devenue un mode d'expression en tension, vidé de son pouvoir. Avant, en 1995, on pouvait encore entendre, rappelle-t-il, Alain Juppé déclarant par exemple « Si 2 millions de manifestants sont dans la rue, je retire mon projet ». Mais par la suite, détaille-t-il dans Charlie Hebdo entre autres, tous les politiques, de gauche comme de droite, ont répété « Ce n'est pas la rue qui gouverne ». Il cite aussi Nicolas Sarkozy qui dit devant le congrès de l'UMP en 2008 « Maintenant, quand il y a une grève, on ne s'en rend même plus compte ». Ainsi, les manifestations auraient-elles été peu à peu privées de toute leur efficacité? Et comprenant cela, les manifestants, poursuit Jobard, ont renoué avec d'anciennes formes de protestation, comme les ronds-points, les réunions sur la voie publique, sans déclarer de manifestation, la prise d'assaut de lieux symboliques, comme les préfectures, ou d'autres formes de protestation violente. Une piste de réflexion donc, ou pas, pour écouter tout de suite ces 3 histoires, intitulées « Les forces du désordre, CRS et manifestants ». Elles sont racontées par Valérie Borst.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Castan Jessy, je suis brigadier chef à la CRS 44 et je suis délégué UNSA Police. Alors le métier de policier, c'est une vocation, hein. C'est un métier que je voulais faire depuis tout petit. Bon, j'ai été bercé dans ce milieu-là parce que mon père était fonctionnaire de police. Je suis arrivé donc dans mon unité actuelle au 1er septembre 2006. On va être déployé sur une manifestation. À la base, on est là pour encadrer la manifestation de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Alors au début, on est habitué à recevoir des insultes, à recevoir des canettes. Je ne vais pas vous dire que ça fait partie du quotidien du CRS, mais on est entraîné pour, voilà. Avant, l'épopée Gilets jaunes, on restait passif. On ne devait pas aller au contact, on subissait, on laissait faire les choses. On a fait une manif d'éleveurs de poulets où on nous jetait des poulets enflammés. Pendant 2h30, moi j'ai eu une personne en face de moi qui me crachait dessus, qui m'insultait de tous les noms, voilà. Et on avait ordre de ne pas bouger. Alors il y en a qui venaient qui, avec des bâtons, qui nous tapaient dessus. Et pour l'instant, on ne bougeait pas. Maintenant, ça change, les gens, ça les choque. Parce que maintenant, ils voient les forces de l'ordre chargées. Maintenant, les consignes nous ont quand même été données clairement. C'est dès qu'on voit un groupuscule se former, c'est d'aller au contact. On ripostera par rapport aux violences qu'on va subir sur le terrain. Le 1er décembre, ça a été une... C'est pour moi, ça n'a pas été une manifestation traditionnelle. Ça a été plus de 12 heures de bagarre de rue. C'est une journée qui a commencé à 3h30. Parce qu'on avait une mise en place sur la capitale pour 6h du matin. 8h30, on commence à entendre sur les ondes que ça commence à dégénérer. Une heure après, on reçoit l'appel de renforcer les unités sur l'Arc de Triomphe. On est arrivé et certains groupes se forment au sein du cortège. Ça commence à se masquer, ça commence à dissimuler le visage, ça commence à arracher un peu de mobilier urbain, à déceler des pavés. Là, on se dit, ça va partir. Et de fait, 5 minutes après, bon, on commence à recevoir les premiers jets de projectiles. On a dû tenir que ce soit la rue Pasteur, l'avenue Foch, pendant des heures et des heures. Plus on avançait dans le temps, plus nos moyens lacrymogènes commençaient à diminuer, quoi. C'est l'armurier qui venait à nous et qui venait nous ravitailler à même les barricades. Parce qu'on n'avait plus rien. À un moment, on s'est retrouvé pendant 30-40 minutes, subir des assauts. On n'avait que nos matraques pour riposter. On ne pouvait plus avancer, donc on se protégeait derrière la barricade. Et eux, on les sentait, ils étaient de l'autre côté de la barricade. Dans le nuage de lacrymogène, on ne voyait pas à 20 cm. On entendait dire simplement, il faut en buter un. Arrivé la nuit tombante, ils avaient des pointeurs laser pour nous viser à hauteur de casque. Et disaient, regardez, on vise les casques, lancez les projectiles là où le laser va. C'est sûr que quand vous prenez quelque chose de 2-3 kg sur le casque, ça peut vous tuer. On nous a acheté un scooter, et pas un petit scooter, pas un 50 cm cube. Faut aller voir, ils nous ont jeté des bancs publics. Un extincteur, j'ai pris aussi. Une fois que le nuage s'est un peu dissipé, on a vu des barres de placo plantées dans des arbres, comme des flèches. Ils avaient attaché des chambres à air entre deux arbres et ils s'en servaient comme catapultes, donc ça a cassé des boucliers. Hein. Ce sont des boucliers en plexi, les boucliers, ils ont volé en éclats. Et après, on a vu qu'ils commençaient à mettre le feu à un hôtel particulier qui donne directement sur l'Arc de Triomphe. Et là, on voit un homme qui accourt vers nous, pieds nus, t-shirt, caleçon. C'était le propriétaire de la maison qui dit « Ils ont tout cassé chez moi, ils ont mis feu, c'est en train de brûler. » Ils étaient rentrés dedans, ils avaient pillé l'hôtel et ils avaient lancé des cocktails Molotov. Ils étaient des centaines dans son jardin. Donc il a fallu qu'on se batte avec eux pour les sortir et de façon à sécuriser les lieux pour que les pompiers puissent intervenir et éteindre le feu. Ce jour-là, j'étais porteur du LBD parce qu'il nous fallait un maximum de moyens de défense. Et ce jour-là, j'ai tiré 70 cartouches de LBD. En une seule journée, j'ai tiré autant qu'en 20 ans de police. J'ai impacté 70 personnes. Mais 70 personnes qui présentaient un danger potentiel. Soit qui avaient un cocktail Molotov dans les mains, soit qui avaient un pavé ou divers projectiles. Toutes les personnes que j'ai impactées, je les ai impactées au niveau du torse ou des jambes. Ce qui les a surtout fait reculer, c'est qu'à un moment, on a eu l'autorisation d'utiliser les fameuses glis. Alors les glis, c'est les fameuses grenades qu'on arrachait des mains. Ça a un fort pouvoir détonant. Vous avez l'impression qu'il y a une bombe qui explose quand vous la lancez. C'est dangereux, oui, parce que dedans, il y a de l'explosif. Mais en fait, c'est pas dangereux si vous la ramassez pas, quoi. 1er décembre, on en a lancé 8 ou 9 des glis pour se sortir du guépier et de les faire reculer un maximum de façon à pouvoir intervenir sur l'hôtel qui où vous avez commencé à y mettre le feu. Le calme est revenu à 23h. Pour moi, en 20 ans, c'est la manifestation la plus violente. J'ai eu 3 hématomes au niveau du dos, de la colonne vertébrale. J'en ai eu 2 au niveau de la main, dont une plaie saignante. Après, les hématomes, je les ai découverts en fait le soir, quand je suis rentré dans ma chambre de cantonnement. Quand j'ai regardé dans le miroir, j'ai vu que j'avais le dos qui était tout bleu, quoi. Là, le 1er décembre, je ne me suis pas arrêté. Parce que le lendemain, on savait qu'il fallait remettre ça, on y retournait. Tant que je peux marcher, voilà, je continue. C'est Black Box. C'est pas spécialement des gens qui viennent, on va dire, du bas de la société. On a interpellé des Black Box où le gars, il est ingénieur en informatique. Des gens qui sont mariés, qui ont des enfants. Et puis, le samedi, ils se déguisent en noir et puis ils vont casser du flic ou casser de la... voilà. Plus on s'en prendra aux forces de l'ordre, nous, on ripostera autant. C'est sûr que le policier doit être exemplaire, on le fait. Mais à un moment, quand vous subissez de la violence et de la violence, et puis que c'est l'intensité aussi, parce que tous les week-ends, vous êtes mobilisés, donc il y a une fatigue, il y a la surenchère de cette violence qui monte crescendo. À un moment, en face, on reste des hommes. Hein, le 1er décembre, il n'y avait plus de limite. De leur côté, ils n'avaient plus aucune limite. Je me suis posé la question à savoir si on allait s'en sortir. Parce que plus je voyais le temps passer, et plus je voyais les projectiles et la violence qu'on subissait, et puis je voyais mes collègues, certains collègues tomber, et puis donc exfiltrer du barrage pour être soignés un peu plus loin, je me dis, ouais, combien de temps on va encore tenir? Comment ça va finir? On va se faire laminer, et on fait quoi? On sort nos armes? Parce qu'on a quand même des 9 mm à la ceinture. Est-ce que ça aurait été la dernière solution à avoir? la question, on se la pose. Hein. À un moment, peut-être falloir sauver sa peau aussi. Hein. Si on n'aurait pas réagi par la violence face à la violence qu'on subissait, le 1er décembre, il y aurait eu des fonctionnaires de police qui seraient morts. En face, il n'y a pas eu de mort non plus. On nous critique, nous, force de l'ordre, par rapport à ces violences. Beaucoup vont dire, oui, il y a eu des violences ce jour-là, des violences policières. Non, moi, j'aime pas employer ce terme de violence policière. La police a la violence légitime pour remettre l'ordre républicain dans le bon chemin. Après, le LBD est une arme, c'est un moyen de défense intermédiaire. Ce qu'il faut, c'est y mettre la bonne munition à l'intérieur. Parce que pour le LBD, vous avez deux types de munitions. Nous, en CRS, on est doté de la munition CTS. Moi, le point visé, ça sera le point touché. Et vous avez la MDU. La MDU, beaucoup moins puissante. Moins puissante, qui veut dire moins précise. Sur un tir à 25 mètres, vous pouvez avoir un différentiel entre 20 et 30 cm. Si le collègue vise au niveau du torse, avec ce différentiel, 20-30 cm, ça peut vous amener à hauteur de la tête. Pour moi, c'est ce qui a causé les dommages parmi les blessés qu'il y a eu chez les Gilets jaunes au niveau des yeux. Sur les enquêtes IGPN, il y a un peu plus de 200 enquêtes qui ont été diligentées pour ce qu'on appelle violence policière. Il n'y a que deux enquêtes qui concernent les CRS. Il faut savoir que l'histoire du croche-patte, ce ne sont pas des CRS qui l'ont fait. Le LBD à 1 mètre, ce ne sont pas des CRS. Le crachat de sang avec le coup de poing, ce ne sont pas des CRS. Les CRS, c'est des professionnels du maintien d'ordre. Ils savent ce qu'ils doivent faire. La MDU, c'est souvent utilisé par tout ce qui est BAC, les Braves, les CI, tout ça. Les Braves, c'est les brigades répression d'action violente qui ont été créées par le préfet de police de Paris. Mais ce sont des brigades éphémères. On les crée le jour de la manifestation. Donc on va aller prendre des effectifs à droite, on va en prendre deux à gauche, on va en prendre chez Paul, chez Jacques. C'est des collègues qui n'ont jamais l'habitude de travailler ensemble. On va les mettre ensemble, on leur dit voilà, vous faites la manif et vous allez rentrer dans le tas. Ils n'ont aucune formation en matière de l'ordre. Je pense que tout est dit.
Hôtel de ville à 14h.
Et là, vous savez pas, ils sont où en ce moment-là?
Ils passaient par rue de Rivoli et finissaient ici.
Et du coup, c'est ici que tout va jouer, ça va exploser, ça va...
Exploser, je sais pas.
Enfin, ça va péter, je crois. Le gendarme nous a dit passer, vous pouvez passer, mais dans quelques instants, ça va être... Ils vont tout bleu, ils vont commencer à
péter. Et l'hôtel de ville, il se trouve où, là? Il y a loin, là?
Bah, moi, j'allais y aller à pied, il y a, je pense, 15 minutes.
Eh ben, on y va avec vous.
Vous venez pourquoi?
On va manifester.
Vous êtes quoi, collègue, ami?
Non, on se connaît pas. Moi, je suis de Chartres. Je suis tout seul. Et je rencontre du monde.
Moi, je viens de Pontoise, 95.
Vous avez quel âge?
48.
Et vous?
19. Moi, je mettais le gilet jaune et j'ai été pris par cible, par la BAC. Et je me suis pris une balle de flashball dans la côte. La semaine dernière, une balle de flashball au genou alors que j'avais des protections. Ça m'a sauvé. Et je m'habille en noir. Parce que j'ai pas envie d'être visé par les tirs de flashball comme ça. Si je vois que ça tire, je peux me cacher derrière un truc. Vu que je suis en noir, ça va me protéger. Je vais pas me faire tirer dessus. Je sais que ça va durer encore longtemps. Parce que je sais très bien que le gouvernement, il va pas céder comme ça. Il faut que dans les manifestations, c'est triste à dire, faut que ça casse. Parce que le gouvernement, si Emmanuel Macron, il nous voit en train de manifester, par exemple, comme la CGT, à dire juste des slogans et tout, qu'il n'y ait pas de violence, pas de casse. Pour moi, Emmanuel Macron, il va rigoler. Quand il y a de la casse, au moins, il voit que le peuple, que la France est en colère.
Pour vous, on peut pas discuter, il n'y a pas de terrain d'entente.
Bah, avec certaines personnes, non. Par exemple, tout à l'heure, j'ai essayé de passer, le CRS, il m'a dit « Ouais, va te faire enculer et tout ». Il m'a dit « Tu passeras pas ». Et moi, je lui ai dit « Bah, on se donne rendez-vous samedi, comme ça, je te casse ta gueule ». Après, il a commencé à dire « Ouais, vous manquez pas de respect et tout, sinon on vous embarque ». Et je suis parti.
Ils incitent à la provocation et à la violence.
Après, on dit que nous, on doit respecter. Certes, moi, j'ai du respect envers les bons flics, pas envers les flics cons, comme les baqueux et les gendarmes avec leur casque à bande bleue. Toutes les histoires de flashball, tous les blessés pratiquement, sont faits soit par les gendarmes, les casques avec les bandes bleues, ou soit par la BAC.
Ouais, parce que c'est pas les CRS.
Non, les CRS.
Les CRS sont cool. Moi, je peux le dire.
Moi, je les respecte. Les casques à bandes jaunes, les CRS.
Les vrais CRS.
Ça, c'est les vrais CRS à l'acte 6, il y a quelques CRS qui ont enlevé leurs casques, ils se sont mis à parler avec nous, ils ont lâché les boucliers et tout. Et on a échangé pendant à peu près 30 minutes, jusqu'à ce qu'un groupe de casseurs arrive. Et foutre le bazar, acheter des bouteilles de bière, acheter des barrières et tout. Là, les CRS, ils ont remis leur casque, leur bouclier. et c'est parti en live quoi. Après ça finit généralement en jet de bouteille, en gaz et voilà. On va rien lâcher et continuer à se battre. Moi je casse juste quand ça vaut la peine. À l'acte 2, on a pété Louis Vuitton, Philippe Lain. Chanel à l'acte 7, vraiment tout. L'idée, c'était de casser pour faire des dégâts et me montrer qu'on est en colère, quoi. Moi, j'ai rien pris, je suis tout le temps. C'est, ça se fait pas de voler. Après, comme on dit, tous les moyens sont bons, mais c'est à la rue, comme on dit. Moi, ça me manque d'avoir pas de gaz la semaine. Faut que tous les week-ends, j'ai ma petite dose de gaz quotidienne.
On est dopé à leur gaz.
Je sais pas comment ça va finir, mais bon. On verra bien. S'il faut qu'il y ait plus de morts, il y aura plus de morts. Il y a du monde là-bas. J'ai vu des gilets jaunes.
Bien sûr que oui, il y a du monde.
Je m'appelle Odile Morin, j'ai 56 ans, je me déplace en fauteuil roulant électrique depuis une vingtaine d'années à cause d'une maladie génétique rare et je suis aussi autiste Asperger. Je me bats aujourd'hui beaucoup contre le validisme, qui est cette norme sociale qui fait que l'espace public est organisé uniquement pour les personnes en bonne santé, sans maladie, sans handicap. Ça exclut de fait les personnes handicapées, les personnes âgées, toutes les personnes qui ont des problèmes de mobilité. J'ai pensé que c'était important que les personnes handicapées soient présentes de manière visible. Donc j'ai manifesté et c'est passé par différentes formes d'action. Des péages gratuits avec nos fauteuils roulants. On a aussi bloqué un TGV il y a un an et quelques, ce qui nous a permis d'obtenir enfin des travaux attendus depuis plus de 10 ans à la gare Matabiau de Toulouse. Et on a aussi fait quelque chose qui, a priori, peut paraître impossible. C'est qu'on a fait le tour des pistes de l'aéroport de Toulouse et... En 5 minutes, j'ai découvert une faille. C'était un portail grand ouvert. Je suis repassé, j'ai constaté que c'était toujours ouvert. On est rentré, on a atterri sur les pistes, on a bloqué la circulation aérienne pendant un peu plus d'une heure. On était à 15, on était 6 en fauteuil roulant, une aveugle qui poussait un des gars en fauteuil roulant, le chien d'assistance. Ça restait bon enfant. Et puis est arrivée la dite crise des gilets jaunes. Très vite, j'ai été le témoin des violences policières et ça m'a profondément choqué et révolté. Très vite, j'ai été consciente du fait que je pouvais être blessé. Donc très tôt, j'ai dû m'équiper, me protéger. J'ai dû m'équiper d'un masque à gaz parce que j'ai un asthme léger. Respirer le gaz lacrymogène pourrait être létal pour moi. Et puis, je me suis très vite occupé aussi d'un casque parce que voir les blessures par LBD qui ont été infligées à certains quand on sait les séquelles d'un traumatisme crânien, ce sont des séquelles invisibles. J'ai une habitude aussi, c'est que je filme systématiquement en manifestation, d'abord pour documenter ce qui se passe, et puis aussi parce que c'est une manière de me protéger. Et puis arrive le 30 mars, c'était je crois l'acte 20, et puis on avait défilé dans Toulouse, je m'étais échappé un peu un moment, et puis on arrive... à Arcole, pour reprendre les boulevards et revenir vers Jaurès. Et à ce moment-là, on a toute une ligne de policiers et de fourgons de police, le canon en haut au milieu, qui nous barre le chemin et qui nous empêche de passer. Les gens, il y en a qui se sont couchés par terre, il y en a qui ont levé les mains. C'était vraiment calme et pacifique. Moi, j'ai demandé à parler à l'officier responsable du dispositif parce que j'ai voulu négocier le fait qu'il nous laisse passer. Mais pas de réponse. Et à un moment... les baqueux attaquent par derrière et balancent des grenades lacrymogènes. Et puis je tourne la tête à droite et à ce moment-là, je me prends un jet d'eau dans la figure. Je me retrouve grenadé. Et donc je suis trempé, je vois pas bien, je suis furieuse. Je l'ai extrêmement mal vécu et j'ai invectivé les policiers. Et je leur ai demandé de quel droit ils s'étaient permis de me tirer dessus. Je décide à ce moment-là de bloquer le canon en haut. Au moment où ils m'ont tiré dessus, j'étais à 2-3 mètres, pas à 50 cm, parce que si je me mets à 50 cm, le chauffeur ne me verra pas. Il pourrait me rouler dessus sans s'en rendre compte. C'est un véhicule immense, je pense qu'il doit faire au moins 2,50 mètres de haut. il roule et il arrose par intermittence ou durablement tous ceux qui sont encore en face, quoi. Et chaque fois qu'il essaie de me contourner, je me déplace et je le bloque. Il déclenche sa sirène, il essaye de m'impressionner en avançant jusqu'à moi et je bouge toujours pas. Je résiste comme ça parce que c'est une question de principe pour moi. Je ne me laisse pas violenter, je ne cède pas à la terreur, c'est tout. À aucun moment je ne suis violente ou je ne cherche à l'être. Par contre, je suis caustique, je suis moqueuse. Je me moque d'eux. Ils arrivent à déplacer mon fauteuil, donc ils réussissent à faire que le canon à eau me contourne et rejoignent une autre rue. L'officier responsable du dispositif est venu me demander de partir. Je lui ai signifié que, puisqu'elle n'avait pas voulu venir quand je lui avais demandé de discuter avec moi, c'était pas maintenant que j'allais bouger et que donc je ne bougerais pas pendant un certain temps. Malgré tout, elle passe outre et elle demande à ses hommes de bouger mon fauteuil. Alors d'abord, ils essayent de le tirer de force, et puis ils se rendent compte que 250 kilos, ça ne se déplace pas comme ça.
Ils vous entourent, ils sont combien?
Oui, ils sont 2, 3, 4, 5. Et puis ils tirent sur le dossier au risque de le péter, ils tirent sur les cale-pieds, sur les... Enfin, c'est un miracle que mon fauteuil n'ait pas été cassé cette fois-là. À ce moment-là, il y en a un qui attrape le joystick, donc le manipulateur du fauteuil. Moi, je perds le contrôle du fauteuil, le fauteuil est expédié contre le trottoir, et je me retrouve quasi éjecté du fauteuil. J'arrive à me retenir. Tout le monde, la foule crie, mes affaires sont propulsées par terre, donc les médics interviennent. Et comme j'étais furibarde, ben je continue à les poursuivre. Et je remonte toute la colonne de camions qui était passée, je les double, et j'arrive derrière le canon à eau. Je m'arrête, je coupe mon moteur. À ce moment-là, ils arrêtent, ils interpellent un jeune, etc. Moi, j'ai l'arrière du canon à eau à ma droite devant moi. Et je vois, il y a un fourgon de police derrière le canon à eau. Il y a 2-3 mètres d'espace entre les deux. Je me dis, je vais les prendre de vitesse, par surprise, et je vais passer entre les deux véhicules et faire le tour du canon à eau par l'autre côté, les bloquer de nouveau. Je redémarre doucement, j'essaye de ne pas éterrer leur attention. Mais ce que je n'avais pas vu à ce moment-là, c'est qu'il y avait 2 policiers qui étaient derrière moi, qui cherchaient visiblement un moyen, je pense, de retenir et d'immobiliser mon fauteuil. Et celui qui est à ma droite agrippe le support du joystick, et moi j'avais pendant ce temps-là ma main sur le joystick. Donc en écartant mon joystick, au lieu que j'aille tout droit, j'ai dévié brutalement ma course. J'ai atterri dans un fourgon de police. Je me suis retrouvé le pied pris entre le véhicule et mon fauteuil. Et je devais être à 8 ou 10 km/h. Et ça a occasionné 5 fractures du pied, une énorme entorse. J'ai eu très mal, j'ai hurlé. Et en même temps, le policier qui était derrière et puis à ma gauche, il a chuté. Il a fait 2-3 pas un peu difficiles et puis il s'est relevé, il est parti. Et l'autre policier, parti aussi, ils ne se sont pas préoccupés une minute de ce qui m'était arrivé et pourquoi j'avais hurlé. Tout de suite, j'ai demandé à mes camarades gilets jaunes, j'ai lancé le message que je voulais du soutien, mais que je voulais un soutien calme et pacifique et que je ne voulais pas, sous prétexte que j'avais été blessé, que mes camarades soient violents par réaction. Mais je revendique la provocation. Je pense que c'est le minimum face à un État autoritaire. On me casse la gueule, on me violente. Je trouve que je suis très gentille de n'être que provocatrice. J'avais déjà averti mon avocat, j'avais déjà de toute façon déclaré que j'allais porter plainte. Et 15 jours après les faits, alors que j'étais en train de collationner toutes les vidéos que j'avais fait, que d'autres avaient fait, pour montrer justement ce qui s'était passé, je reçois un appel de la police qui me convoque au commissariat du Mirail. J'y vais, et là j'apprends qu'ils veulent me mettre en garde à vue. Il y avait violence sur agent dépositaire de la force publique avec arme par destination. J'ai fini par comprendre que l'arme en question, c'était mon fauteuil roulant. Donc il y avait un policier qui disait que je l'avais blessé au genou pendant la manifestation. Et avec leur protection, je n'avais aucune chance de leur faire mal, mais je n'avais aucun souvenir d'avoir heurté qui que ce soit. Je finis par comprendre que c'est le policier qui est tombé au moment où son collègue a bougé mon manipulateur, m'a fait perdre la direction et m'a fait rentrer dans le véhicule. Deuxième chef d'inculpation, injure, outrage, pour avoir traité de fils de pute ou je sais pas quoi la commissaire et tous ces hommes. J'ai dit oui, effectivement, mais je vous rappelle que j'avais 5 fractures du pied. Je pense que c'est un dégât collatéral qui pèse pas très lourd. Mais je plaide coupable là-dessus. À la fin de l'audition, ils m'ont dit « Vous êtes convoqué en correctionnel ». C'était la première fois de ma vie que j'étais convoqué en correctionnel. J'ai eu du mal à prendre vraiment les choses au sérieux, en me disant « Mais c'est d'un ridicule ». Là encore, ils essayent de me faire peur, mais je ne marcherai pas dans leur système, quoi. J'ai bien vu que peut-être certains avaient exercé des violences, mais qu'un certain nombre de personnes que je connaissais qui sont passées en correctionnel n'étaient pas des violents, n'étaient pas des casseurs.
Vous êtes quoi ?
Ben moi, je suis simplement une citoyenne en situation de handicap et qui revendique le droit de mener la même vie que tout le monde avec les compensations nécessaires et avec l'accessibilité.
Vous êtes une casseuse, une black bloc, une activiste ?
Je suis une activiste, oui. Ça, je revendique le terme d'activiste et j'incite beaucoup les personnes handicapées à être là où on les attend pas. Et qui a dit que je cassais les codes ? Oui, je casse les codes, oui, effectivement. Donc le procès, mon avocat était quand même relativement confiant. Il y a eu plus de 3 heures d'audience. Et puis ils se sont tous retirés et j'ai appris une heure après que j'étais condamné à 2 mois de prison avec sursis, à 1 an d'interdiction de manifestation et à plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts pour les policiers que j'aurais soi-disant blessés. Par contre, en ce qui concerne ma plainte, une semaine après ce procès, j'ai reçu un courrier du parquet disant que ma plainte était classée sans suite. Mais en tout cas, je suis décidé à aller, s'il le faut, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne lâcherai pas. Je le ferai, quoi qu'il m'en coûte, je le ferai. Et j'entends que les 2 policiers soient condamnés, mais surtout leur hiérarchie. Parce que ces policiers, je ne suis pas sûr qu'ils n'ont cherché à me blesser volontairement. Je pense qu'ils ont été mal commandés. Je crois que c'était vraiment le but de cette condamnation, c'était de m'empêcher de manifester. Parce que je dérange en continuant à manifester à Toulouse. Certains se sentent inspirés par mon comportement, oui, très vraisemblablement, mais c'est tout. Je n'aime pas la violence, ce ne sont pas des actes que j'approuve, ce ne sont pas des actes que je commets, mais que je peux comprendre de la part d'autres personnes parfois.
C'était les forces du désordre, CRS et manifestants. 3 histoires racontées par Valérie Borst et réalisées par Anne-Laure Chanel. L'attachée de production, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire, c'est François Bréus. Merci à Odile, Céline Boussier, Jessie Castan, David Michaud et aux personnes rencontrées lors des manifestations des Gilets jaunes.